pas parler de notre cerveau ce matin, cet organe complexe composé de milliards de neurones responsables de tout ce que nous faisons, ressentons et pensons. Notre cerveau est à l'honneur cette semaine, la semaine du cerveau, c'est le rendez-vous annuel mondial qui vise à promouvoir la recherche sur cet organe. Alors quelles sont les grandes avancées réalisées ces dernières années? Où en est la recherche sur cet organe qui préside donc tous les autres? On va en parler avec vous, Pierre van der Hagen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la KU Leuven, médecin. Vous avez été lauréat du prix Franqui en 2011. Si mes souvenirs sont bons pour vos recherches, notamment sur le développement cérébral. Alors, le cerveau, il est fascinant par sa complexité. Pierre van der Hagen, on estime qu'il existe plus de connexions dans le cerveau humain que d'étoiles dans la Voie lactée. C'est souvent le chiffre que l'on donne. On est encore loin de comprendre aujourd'hui tous les rouages, tout le fonctionnement de notre cerveau.
Ben oui, c'est sûr. Je ne sais pas d'ailleurs combien exactement il y a d'étoiles dans la Voie lactée. Mm-hmm. Mais il y a en effet plusieurs milliards de connexions entre à peu près 15 milliards de neurones, par exemple, dans notre cortex cérébral simplement. Donc c'est une complexité énorme, d'autant que c'est pas juste que c'est un paysage difficile à regarder parce qu'il est compliqué, c'est aussi que ce paysage change toutes les secondes, voire toutes les millisecondes. Et en fait, c'est cette dynamique dans le temps aussi qui fait que notre cerveau a cette capacité de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de nous permettre de discuter, de réfléchir, de rêver ou d'avoir mal en fonction des circonstances.
C'est un organe en constante évolution qui ne cesse de changer.
En effet, c'est un organe qui est tout le temps en train de changer. Son développement, d'ailleurs, est très prolongé dans notre espèce. Et même au-delà du développement, ce qui nous permet d'apprendre, ce qui nous permet de nous adapter à l'environnement, c'est sans doute la faculté peut-être essentielle de notre cerveau. Maintenant, malheureusement, d'un autre côté, cette complexité qui fait qu'elle nous fascine, c'est aussi ce qui fait que c'est très compliqué à comprendre. Alors, j'aurais envie de dire par rapport à d'autres domaines des sciences médicales, comme par exemple les recherches sur la biologie des cellules ou du cancer, je crois qu'on est vraiment sans doute un siècle ou deux en retard. Non pas parce qu'on ne travaille pas bien ou pas assez vite, mais tout simplement parce que le continent à explorer est beaucoup plus grand, beaucoup plus compliqué à aborder. Et donc on a une fameuse mission assez excitante devant nous et qui est justement de comprendre cette terra incognita qui est dans notre tête à tous.
Il nous faudra encore des siècles pour comprendre totalement le fonctionnement de notre cerveau, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oh, écoutez, je ne sais pas, oui. Mais j'oserais dire ni des siècles, ni des années, ni des millénaires. Je pense, il y a des philosophes qui disent que comme nous avons simplement un cerveau humain, on ne va jamais être vraiment capable de comprendre le cerveau humain lui-même. Néanmoins, on arrive à comprendre quand même un certain nombre de choses de plus en plus.
Qu'est-ce qu'on a découvert récemment sur le cerveau, Pierre van der Hagen?
On découvre des choses vraiment très excitantes, très, très, très régulièrement. Je donnerai un exemple qui est assez parlant, je trouve, en tout cas, qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Donc, vous savez qu'il y a des régions de notre cerveau qui sont spécialisées dans la production ou dans la compréhension du langage. Et donc, pendant très longtemps, on s'est demandé comment elle fonctionnait. Et récemment, il y a des chercheurs, notamment à l'Université de Californie à San Francisco, qui sont parvenus à mesurer précisément les signaux électriques des cellules nerveuses de ces aires et de commencer à décoder, en fait, quel est le lien entre cette activité électrique et la production du langage. Donc, littéralement, quels sont les neurones qui sont activés, par exemple, quand on produit certaines voyelles, certaines consonnes, et donc en les liant certains mots. Alors, jusque-là, c'est déjà assez incroyable qu'on puisse, quelque part, faire une carte des mots, entre guillemets, qui est générée dans notre cerveau. Mais en plus, ce que ces chercheurs ont fait ensuite, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une interface machine-cerveau, et qui, en fait, utilise le décodage que nous, humains, avons fait, et donc utilise ce décodage pour que des personnes qui ont des handicaps moteurs très sévères, qui ne sont pas capables de produire du langage, ont en fait une partie de leur cerveau qui est lue par cette interface au moment où ils essayent de produire un mot et leur permet ainsi de s'exprimer, bien sûr de façon très simple, tout ça reste très expérimental, mais c'est arrivé en quelques années et je pense que ça me fait mentir quand je dis qu'il va falloir des siècles pour progresser vraiment.
Mais voilà. c'est ça qui est important dans ce que vous dites, Pierre Van Neuragen, c'est que chercher à comprendre comment fonctionne le cerveau, c'est pas juste pour la beauté du geste scientifique, il y a des applications très concrètes derrière.
C'est sûr, je pense qu'on est tous, d'une façon ou d'une autre, on est curieux. Mm-hmm. Voilà, je crois que tous les humains sont curieux et je pense que c'est le produit de l'évolution. Et peut-être que la première chose qui attire notre curiosité, c'est nous-mêmes. Et quelque part, je pense que la plupart des neuroscientistes, des neurobiologistes, c'est cette question-là qui les attire d'abord, soyons honnêtes. Maintenant, c'est vrai que on guérit le mieux ce que l'on comprend. Et la raison pour laquelle les maladies du cerveau sont, pour la plupart, malheureusement aujourd'hui incurables, c'est justement parce qu'il nous manque des connaissances, et c'est ce déficit des connaissances du cerveau qui fait qu'on reste démuni par rapport à beaucoup de ces maladies. Donc l'idée, c'est que diminuer ce déficit de connaissances, c'est ce qui permet justement de faire des avancées. Je viens de vous en donner un exemple. Bon, il y en a toute une série d'autres. Pour l'instant, par exemple, il y a des essais cliniques de transplantation de cellules nerveuses dérivées à partir de cellules souches pour des patients atteints de maladie de Parkinson très très avancée. Si vous m'aviez dit il y a 15 ans qu'on allait développer des approches pareilles, je vous aurais dit mais non, ça va jamais marcher, à la fois parce qu'on n'arrivera pas à maîtriser les cellules souches suffisamment et puis parce que le cerveau adulte va être trop réticent à recevoir des nouvelles cellules. Et puis 15 ans plus tard, les recherches qu'on a faites suggèrent que c'est possible. De nouveau, ça reste très expérimental, mais je pense qu'il y a des progrès réels, mais qui de nouveau viennent chaque fois de découvertes très très fondamentales en amont.
Oui, d'où l'importance de la recherche, et c'est ce qui va être mis en avant cette semaine, dans cette semaine du cerveau. Lorsque l'on dit, Pierre Van Neuragen, que l'on n'utilise que, les chiffres varient, mais 10% de notre cerveau,
oui.
C'est une légende, ça, c'est la réalité. Est-ce que on sait percevoir ça, donc quand on fait des recherches sur le cerveau?
Alors, je ne sais pas vous, moi, en ce qui me concerne, avant 8 heures du matin, je pense qu'il y a moins de 10% de mon cerveau qui fonctionne.
Moi, je dois utiliser un peu plus.
Mais... non, c'est une légende. Donc, disons que une des façons dont le cerveau fonctionne, et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que le cerveau est finalement aujourd'hui, malgré les progrès de l'intelligence artificielle, ça reste quand même la structure la plus intelligente que l'on connaisse. Et néanmoins, elle consomme très peu d'énergie. Elle consomme beaucoup moins d'énergie que votre téléphone, par exemple, alors que quand même, on sait faire 2-3 trucs en plus. C'est notamment là derrière que se cache cette idée des 10%, c'est que notre cerveau ne fonctionne pas globalement tout le temps, c'est certaines régions et pas d'autres, et il y a tout des mécanismes en fait très importants et qui peuvent être déréglés dans certaines maladies et qui justement permettent que ce ne soit que les régions les plus utiles à un moment donné qui soient actives. Mais toutes peuvent être actives à n'importe quel moment.
Bon, dernière question, que ce soit avant ou après 8 heures du matin, Pierre Van Neuragen, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un cerveau en forme? Il y a des conseils?
Le sommeil. Et c'est à peine une boutade. Et peut-être d'ailleurs que c'est, en tout cas c'est une prédiction que je ferai, c'est sans doute un des mystères les plus intéressants du cerveau aujourd'hui, c'est à quoi sert le sommeil. Tous les animaux dorment, même les vers de terre les plus simples ont des cycles de sommeil. Si vous enlevez la capacité de dormir à n'importe quel individu, il va mourir en fait. Donc c'est nécessaire à la vie, nécessaire au fonctionnement du cerveau. Et finalement, on sait toujours pas pourquoi. Donc je pense que bien dormir, certainement. Et puis, autre boutade, mais écoutez la première. En tout cas, c'est sûr, être confronté sans cesse à des nouveautés, essayer de susciter la curiosité, c'est sans doute le meilleur moyen, disons, de rester plus ou moins sain.
Ta première est bonne pour le cerveau. On fera une petite promo avec vous, Pierre Van Neuragen. Merci beaucoup d'avoir été.